France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Et décidément, on brasse tous les genres musicaux ce matin ensemble. On est en train d'écouter Hymne 1, qui est extrait de votre album musical Frontières, Arnaud Rebottini. Album que vous avez réalisé avec Christian Zanesi. Vous m'en voulez pas trop si je continue à parler un peu dessus?
Non, pas du tout.
À vos côtés, le journaliste Jean-Yves Leloup, commissaire de l'exposition Electrosound jusqu'au 2 octobre à la Fondation EDF. On voit que de plus en plus la musique électro gagne les autres arts, hein, quelque part. Au théâtre d'abord, il y a de plus en plus de mises en scène qui sont appuyées par la musique électronique. Au cinéma, évidemment, d'Irréversible à Interstellar jusqu'à très récemment avec Eden, le film de Mia Hansen-Love qui retrace là directement la naissance de la French Touch, première génération. L'électro a quand même depuis longtemps fait son entrée au cinéma. Et vous, Arnaud, d'ailleurs, vous avez aussi signé la musique d'un film, Eastern Boys de Robin Campillo. Vous avez aimer travailler avec l'image, du coup, votre musique avec l'image, le son?
Oui, et j'ai particulièrement aimé travailler avec Robin Campillo, qui est un formidable réalisateur et un formidable artiste, qui a une vraie vision du cinéma et de la musique qu'il a envie d'utiliser. Donc,
mais voilà, là, c'est un film dur, un film assez sombre. Est-ce que c'est un genre dramatique? Finalement, l'électro, ça convient bien au cinéma? Est-ce que ça marche bien?
Je ne suis pas sûr d'être formaté pour la musique de comédie, moi, personnellement, mais je pense que l'électro... La musique de La Soupe aux Choux, par exemple, qui est électro, je vous rappelle, le générique. Hein,
c'est vrai?
Super son de synthé. Non, c'est vrai. Après, c'est un thème rigolo, mais la production de la générique de La Soupe aux Choux est...
Il faut qu'on la
remarquable, oui, tout à fait.
Donc vous, plutôt genre dramatique. Alors l'électro,
voilà,
enfin,
moi, je serais moins
tragique.
Capable de composer la musique de La Soupe aux Choux, mais je peux reconnaître ses qualités.
Dans l'histoire du cinéma, de toute façon, l'électronique a souvent servi à d'abord dans le cinéma de science-fiction. La première BO entièrement électronique, c'est 1956, c'est Planète Interdite, c'est très présent dans l'exposition. Et puis, c'est Orange Mécanique, par exemple, c'est certains effets sonores des oiseaux d'Hitchcock. Donc c'est à la fois l'espace, l'inconnu, l'inouï au sens propre du terme, et aussi la menace, le trouble psychologique. Ce vieil instrument, le thérémine, a souvent été utilisé dans les années 50 et 60 pour décrire non pas des mondes inconnus, mais le trouble psychologique de certains personnages, la maison du docteur Edwards, Hitchcock par exemple. Donc l'électronique n'a pas été une musique très 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 fun, très très heureuse dans l'histoire du cinéma. Elle est plutôt là pour décrire quelque chose de mystérieux, d'inquiet ou d'éloigné en quelque sorte.
Ou R2-D2, oui. Le langage de R2-D2, c'est du Harpe 2006.
Tout dans à la fait. Guerre des étoiles.
Pour ouais. Donner une voix aussi soit aux monstres, soit aux êtres de aux robots, aux êtres
non humains. Ce qui vient d'ailleurs.
Voilà. Ils utilisent une fonction qui est propre à la musique électronique, c'est les fonctions aléatoires. Justement, R2-D2, c'est quand on utilise la fonction de faire jouer au-delà des notes, d'ailleurs, des sons de manière aléatoire à un oscillateur, ça donne la voix d'R2-D2.
Et Arnaud Rebottini, vous avez travaillé pour le GRM, le groupe de recherche musicale de Radio France, créé par Pierre Schaeffer en 58. La musique électronique, c'est d'abord un formidable terrain de jeu, mais c'est aussi quand même une musique qui fait appel à des procédés techniques assez complexes, non, assez difficiles.
Oui et non, c'est-à-dire que bon, par rapport au GRM, l'idée complètement révolutionnaire qu'ont eu les gens du GRM, c'était d'imaginer qu'on pouvait faire de la musique autrement qu'avec des sons acoustiques, des instruments. Voilà. Et donc ils ont utilisé des sons qu'ils ont montés sur des bandes et déformés et créé des œuvres de ce principe-là. Après, nous, la musique électronique comme on l'utilise, en fait, on recrée l'illusion d'un son acoustique, mais de manière imparfaite. C'est ce qui donne quelque chose d'un peu... une sorte de voile métaphorique sur la musique. C'est-à-dire que quand vous entendez n'importe quelle musique synthétique, vous pouvez vous dire, tiens, ce son, c'est plutôt des violons, c'est plutôt du piano, enfin, ça ressemble à du piano, ça ressemble à du cor. Et ça donne un effet de connu et d'inconnu. Donc, Voilà. Et quant à votre question sur l'aspect technique, c'est, je pense que c'est le contraire. C'est ce qu'a amené la musique électronique, c'est une démocratisation de pouvoir créer de la musique, d'être compositeur, d'être chef d'orchestre, parce que
tout le monde peut être musicien presque aujourd'hui. Alors du coup,
tout le monde, tout le monde est musicien.
Tout le monde est musicien.
Alors, on peut se moquer. Moi, je parle parfois de la musique de graphiste. Les graphistes qui font de la musique.
Mais c'est les fameux sound designers aussi. Hein,
Il y a cette idée aussi du graphisme à travers ça.
Hein.
Non, mais c'est-à-dire que voilà, on prend des objets et puis qui sont préécrits ou. Enfin, ça a vraiment permis de simplifier l'accès à la composition, à la production, à la fois en termes de coût et à la fois en termes de difficultés. C'est-à-dire qu'avant, pour être compositeur, il fallait maîtriser un instrument, après faire des années de solfège, après, enfin voilà, c'était...
Si tout le monde, ou presque, peut aujourd'hui maîtriser l'usage des machines, est-ce que tout le monde peut être musicien pour vous aussi, Jean-Yves Leloup? Ça pose quand même du coup la question du statut du musicien électro.
C'est d'abord l'un des principaux... l'une des principales dynamiques de l'exposition Electrosound sous-titrée du Lab au Dancefloor, donc, dont je suis le commissaire, mais avec Jean-Louis Fréchin et Yurosh Petrevski, qui sont les deux des commissaires principaux de cette exposition.
Ce sont le Lab et le Dance Floor.
Le Lab, c'est l'idée que c'est une musique qui part des avant-gardes, donc de tous ces laboratoires de recherche, ou plutôt des studios de recherche de l'après-Seconde Guerre mondiale, dont le studio d'essai, ou le GRMC, ou le GRM de Radio France, a été vraiment l'un des laboratoires pilotes, mais il n'a pas été le seul. Hein, c'est en Italie, aux Pays-Bas, aux États-Unis, soit dans des grandes entreprises comme Siemens ou Philips, des grandes universités américaines comme Columbia Princeton par exemple, de très rares centres indépendants et puis des studios de recherche financés par les grandes radios et organismes de radiodiffusion et télédiffusion. Donc c'est une musique de recherche, une musique savante avant 68, une musique qui s'inscrit dans l'histoire de la musique contemporaine et de la table rase de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et puis à partir de 68, ces innovations de la musique électronique, elles pénètrent peu à peu la musique pop, la musique populaire, et démarrent toute une histoire de la musique populaire qui n'a pas fini. Et donc l'idée de l'expo...
Les pistes de danse sur lesquelles on s'amuse le samedi soir.
Voilà, à partir des années 70 avec la disco, et plus encore dans les années 80, et plus encore aujourd'hui. Mais toute l'exposition qu'on a imaginée avec Jean-Louis Fréchin et Roche Petrevski parle de démocratisation successive dans les années 70, 80, 90, et jusqu'à aujourd'hui, il y a tout un étage de l'exposition qui est vraiment dédié à des nouveaux instruments, parfois très simples d'accès ou très peu chers, quelques centaines d'euros.
Donc démocratisation des publics, mais aussi du musicien.
Voilà, absolument, des nouvelles applications. On peut aussi générer parfois de la musique. On peut, à partir de simples paramètres, aujourd'hui, c'est ce qu'on montre sur certaines applications qui font effectivement très très peur à certains musiciens. Il y a aussi des recherches qui sont menées, par exemple, au Computer Science Laboratory de François Pachet à Paris, qui sont des musiques qui peuvent, des logiciels qui peuvent analyser le style d'un musicien, le reproduire, proposer de l'improvisation à un musicien, reproduire une certaine forme de musique dans le style de, je sais pas, des Beatles de 67 ou des concertos de Bach ou d'une compile de musique d'Ibiza. Ça, c'est très impressionnant ce qu'on peut faire aujourd'hui. Effectivement, il y a à la fois une démocratisation des outils, des accès, une simplification, une démocratisation, et puis aussi des outils qui permettent de générer de la musique à partir de certains types de paramètres. Et c'est ça vraiment qui peut faire très très peur à beaucoup de musiciens quand on présente ce type d'innovation ou ce type de service.
Alors de la marge au phénomène de mode, j'entends bien que vous préférez parler, Jean-Yves Leloup, de démocratisation. On dit merci qui ? On dit merci les Daft Punk,
oui,
qui ont permis à la musique électronique de faire le tour du monde, around the world.
Et c'est ça qui était magnifique avec ce morceau quand on l'a écouté pour la première fois vers 96-97. C'était une forme de slogan et presque une forme de manifeste en quelque sorte. Et c'est vraiment ce qu'on vivait à l'époque, dans ces années 90, sur une forme d'explosion mondiale de l'électronique, mais qui s'est véritablement réalisée que depuis 3 ou 4 ans. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces figures de passeurs qui sont aussi présents dans l'exposition. Il y a des personnages comme ça qui font le lien entre un pays et un autre, entre un public plus savant et un autre plus populaire, ou des gens qui sont à la fois ingénieurs et musiciens. Bon, les Daft Punk, ce sont des ambassadeurs, comme la pu l'être Jean-Michel Jarre quelques années auparavant.
Alors justement, jouer avec les sons, traiter les sons, vous citiez les Daft Punk qui sont français, hein, comme leur nom ne l'indique pas.
Oui,
oui, tout à fait. Et Jean-Michel Jarre qui l'est aussi, comme son nom l'indique. En quoi les Français sont-ils précurseurs sur cette scène électro? Arnaud Rebottini?
Ben, je crois que justement, c'est une tradition qu'on a autour du disco, en fait, finalement. C'est que la scène dance française, et voire européenne, nous a permis de... Enfin, voilà, à Céron, par exemple, voilà, plus underground, Black Devil Disco Club. Enfin, voilà, il y a toujours une scène disco importante.
Après, qui s'est exportée plus que le rock.
Après, l'avantage de la musique électro, c'est qu'elle est majoritairement instrumentale. Donc, on supprime l'avantage des Anglais, enfin, qu'ont les Anglais sur le reste de l'Europe, c'est de parler la langue des Américains.
J'essaie de
comprendre.
Oui, c'est tôt. Hein.
Comment ?
C'est un peu tôt pour
cette blague.
Redites à nous.
Que l'avantage des Anglais sur le reste de l'Europe, c'est de parler la langue des Américains.
D'accord, voilà, bravo.
Et de pouvoir pénétrer le marché américain.
Et puis surtout de s'inspirer de la musique américaine, le blues et la country.
Non, c'est vrai que le disco français a été une des premières musiques pop françaises à rayonner autour du monde.
Et d'ailleurs, on voit la même chose avec les Allemands. Les Allemands arrivent dans le rock avec de la musique instrumentale, pratiquement le krautrock.
Dans les années 70.
Voilà. Donc, je pense que ces deux phénomènes font que la scène disco et que ce côté décomplexé... le papa de Thomas Bangalter était un producteur de disco, par exemple.
Qui est un des deux Daft Punk. Hein.
Voilà. Ouais. Je pense que voilà, on s'est décomplexé autour de ça, puis après il y a eu tout le truc, c'est French, chic, la mode, voilà, ça, il y a un truc qui a collé autour de ça, et puis quelques disques un peu emblématiques comme l'album de Motorbass qui ont représenté des poussées un peu à la fois populaires et à la fois avant-gardistes finalement dans la scène électronique.
Mais alors aujourd'hui vous diriez qu'il y a encore une patte française, une touche française, ou là encore même la scène française s'est mondialisée quelque part dans sa...
Non, je pense que la plupart des musiques aujourd'hui se sont mondialisées, vous avez des courants esthétiques qui traversent des villes, enfin, on n'est plus aussi attaché à une esthétique, disons, liée à des villes ou à des pays. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé, enfin, ça s'est plutôt développé. Donc, vous pouvez avoir une esthétique, des musiciens qui travaillent une même esthétique, qui soit à Stockholm, à Paris, dans le fin fond de l'Arkansas, aux États-Unis. Ce sont des esthétiques un peu transnationales qui traversent comme ça des courants qui peuvent être disco, techno, qui peuvent être beaucoup plus savants, qui peuvent revisiter la musique des années 60 ou 70, qui peuvent s'inspirer d'innovations africaines, sud-américaines. Enfin, on est vraiment dans une sorte de globalisation des esthétiques et qui sont de moins en moins liées à un territoire. Elles sont liées par l'imaginaire à une forme de territoire ou à une sorte d'époque. Par contre, elles se sont totalement déterritorialisées.
Et alors, détemporalisées aussi.
Oui, tout à fait.
Parce que le temps n'est plus aussi marqué qu'à une certaine époque à cause d'Internet, enfin, grâce à Internet. C'est-à-dire que maintenant, un adolescent a accès à toute la culture 60s Garage, s'il le veut, en tapant 60s Garage ou Soul.
Oui, ça se...
Voilà. Alors que avant, c'était très compliqué d'avoir accès à ce genre de musique. Mmh. Quand vous étiez, il fallait avoir, je dis souvent, quand on était adolescent dans les années 80, si on avait un pote un peu plus âgé que nous qui était punk, on était punk. Et puis s'il y en a un qui aimait les Cramps, on était autre chose. Enfin voilà.
Alors ça fait partie. On a évoqué quand même ensemble deux trois ruptures créées par la musique électronique. On sait aussi qu'avec la musique concrète, ça a été pendant un temps en tout cas. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? La fin de l'écriture sur partition, tout se fait directement sur la machine.
Ça fait longtemps que la partition, pour beaucoup de musiciens, a disparu, hein, en grande partie.
Oui, ça c'est pas très récent.
Et non, mais sur les évolutions et les ruptures justement qu'ont pu créer la musique électro. Et du coup, l'instrument, vous le disiez, remplacé par les machines. Alors, vous avez évoqué le bon vieux synthétiseur tout à l'heure, hein, qui a contaminé le rock, la pop des années 60-70, les boîtes à rythme dans les années 80, et enfin l'ordinateur qui a quand même fini par débarquer dans les années 90. Je voulais vous voir avec vous, Arnaud Rebottini, si l'ordinateur pour vous, ça reste un instrument, vous le percevez comment?
Alors moi je suis un peu anti-instrument, enfin j'aime pas trop les ordinateurs comme instrument. Bon, pourquoi ? Alors déjà, en fait, la tendance qu'on a depuis les années 50, c'est un développement technologique qui va faire que le son va devenir de plus en plus fidèle à l'acoustique, de plus en plus puissant aussi, et en même temps un abaissement des coûts. Pourquoi l'électronique prend tant d'importance dans la house et la techno ? Parce que les producteurs de discos cherchaient à baisser les coûts pour faire des disques de club facilement. Enfin, pas cher, parce que...
Voilà, ça se fait sans grands orchestres, voilà. Et puis ça se fait à la maison, en fait.
Ouais, aussi, c'est que, oui, pour le disco, il fallait avoir un orchestre, des cuivres. Après, l'arrivée des synthés a permis de faire cette musique très peu chère, voilà, en abaissant les coûts. Et l'ordinateur, c'est la fin de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai connu, quand j'ai commencé la musique électronique, je pouvais déjà faire un studio chez moi, acheter une petite table de mixage, mais il fallait que j'achète des reverbs, de quoi enregistrer, des synthés... ça représentait un coût. Maintenant, avec l'ordinateur, vous avez chez vous, vous pouvez tout faire et faire tous les styles de musique. Mais, alors, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, avec les applis qui font la musique dans le genre 2, ce qui fera la différence, c'est la personnalité. C'est le caractère de la musique que vous allez faire.
C'est pour ça que vous avez choisi à un moment de booter hors de la production, notamment de votre album Music Components, c'est très difficile à dire, en 2008, votre ordinateur.
Exactement.
Et vous
ne
l'avez pas réintégré depuis premier plan.
Non, c'est-à-dire que je m'en sers comme un magnéto à bande pour enregistrer ce que je peux faire avec mes synthés, mais je ne l'utilise pas comme générateur de son. C'est toujours cette idée d'avoir... c'est une personnalité, un caractère qui va faire... la musique, c'est pas du sport, on vient pas nous noter, savoir si on est meilleur compositeur ou... c'est pas une performance dans ce sens-là, c'est plus une proposition artistique.
Alors voilà, un petit bout de la fabrique. Quand on écoutera votre album musical Frontières, on saura un tout petit peu plus sur la manière dont il a pu être fait. Merci beaucoup Arnaud Rebottini, merci à vous Jean-Yves Leloup. Je rappelle que l'exposition dont vous êtes l'un des commissaires Electrosound est à voir à la Fondation EDF à Paris jusqu'à début octobre.
Ouais, l'entrée est gratuite.
C'est bien de le préciser.
C'est mardi au dimanche, de midi à 19h.
Merci mille fois, merci beaucoup à tous les deux.